Madame, Monsieur, bonjour, il est 13h, vous êtes bien sur 48FM. Valentin Yuruc vous présente le programme de ce journal. Bonjour Valentin.
Bonjour Oriane, bonjour à tous. Dans les titres, aujourd'hui la vidéo d'une intervention policière violente dans un bus choque sur les réseaux sociaux. L'UNIA se saisit du dossier. Un avion cargo a dû effectuer une manœuvre d'urgence entraînant le largage de kérosène sur l'aéroport de Liège et les communes environnantes. L'attaché de presse de l'aéroport revient sur cet incident. Roger Laboureur s'en est allé hier à l'âge de 90 ans. On reviendra sur l'histoire d'un commentateur qui a marqué la Belgique. Une vidéo montrant une intervention musclée dans un bus a été publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Cette scène se serait passée le 28 novembre dernier. On y voit un homme au sol se faire frapper à plusieurs reprises par un policier pendant qu'un second le maintient. Oriane Moss a contacté l'UNIA.
Cette altercation n'a encore mené à aucune plainte auprès de l'UNIA. L'organisation a toutefois décidé de faire une auto-saisine, annonce Caroline Poncin, attachée de presse. L'UNIA, rappelons-le, est le service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité des chances.
On prend nous-mêmes cette initiative parce qu'on a vu les images, etc. Chez nous, on appelle ça une auto-saisine, dans le sens où on se saisit nous-mêmes du dossier pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avec ça et que ce ne soit pas juste laissé comme ça sans conséquence.
Une plainte n'est pas nécessaire pour entamer une procédure, surtout quand le cas est public, comme ici.
On en a beaucoup parlé dans la presse, dans les médias ça a été vu, etc. Ou c'est quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux et du coup les gens nous interpellent un peu là-dessus. Et du coup, comme c'est des histoires qui prennent plus place, on va dire, dans l'espace public, on est au courant et on se dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors que quand il s'agit de problèmes interpersonnels, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et donc, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus difficile de se dire qu'on va faire une autosaisine parce qu'on n'est juste pas au courant, quoi.
En 2024, l'UNIA a dénombré 18 dossiers concernant des violences policières. Un chiffre stable sur les 5 dernières années.
Vous l'avez sans doute remarqué ce dimanche si vous habitez près de l'aéroport de Liège. Un avion à destination de New York a dû larguer son kérosène au-dessus de l'aéroport et de plusieurs communes voisines. L'appareil a rencontré un problème technique au niveau du train d'atterrissage, l'obligeant à faire un demi-tour peu après le décollage. Une manœuvre exceptionnelle qui permet à l'avion de réduire son poids pour atterrir en toute sécurité. Christian Delcourt revient sur les circonstances de cet incident.
Les règles dans ce type de problème sont d'aller dans un endroit le plus inhabité possible. Généralement, les avions ils vont au-dessus de la mer du Nord et ils déversent au-dessus de la mer du Nord. Parfois, ils le font en Ardennes, dans des zones forestières où il y a moins d'habitation. Ici, c'est l'urgence qui a nécessité le fait qu'il se déleste de son carburant. Il faut savoir que contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le kérosène ne tombe pas au sol. Il y a 90 à 92% du kérosène qui a été largué, qui est parti dans l'atmosphère. Il y a moins de 10% qui retombe au sol. Et quand il retombe au sol, il y a l'odeur qui est évidemment prégnante, mais sur la pollution, elle est extrêmement diffuse. Il n'y en a quasi pas. Pour nous, il n'y a pas d'impact sur la santé des gens.
Un mouvement de grève touche ce lundi les secteurs de l'enseignement et de la petite enfance. Des secteurs relevant de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, les syndicats protestent contre le projet de budget de la Fédération, dénonçant notamment le gel des subsides et ses conséquences sur l'emploi. Des perturbations sont possibles dans les écoles et les crèches, certaines pouvant fonctionner en service réduit ou fermées temporairement. Les directions ont été invitées à informer les parents à l'avance et à organiser un accueil alternatif lorsque que c'est possible. Alors si vous devez vous rendre à Bruxelles, la manifestation pourrait entraîner des perturbations sur plusieurs lignes de bus de la STIB. En cours depuis 10 heures, elle pourrait entraîner aussi des perturbations sur les transports en commun qui ne sont pas directement touchés par la grève. Au Chili, l'ultra-conservateur José Antonio Kast a remporté l'élection présidentielle avec 58,3% des voix face à la candidate de gauche Jeannette Jara. Âgé de 59 ans, l'ex-député d'extrême droite est un admirateur déclaré de l'ancien dictateur Augusto Pinochet. Pour sa troisième tentative, Cast a recentré sa campagne sur les enjeux de sécurité, de lutte contre l'immigration irrégulière, mettant en sourdine ses propositions conservatrices sur les questions sociétales. Il promet un retour à l'ordre et une fermeté accrue envers les migrants sans papier, un discours contesté par de nombreux experts qui relativisent l'ampleur réelle de l'insécurité au Chili. Et une fusillade qualifiée de terroriste a fait 15 morts et une quarantaine de blessés dimanche soir sur la plage de Bondi à Sydney. L'attaque visait un rassemblement de la communauté juive, célébrant Hanouka. Un Français figure parmi les victimes. Selon la police, les terroristes étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans. Le père a été abattu, le fils interpellé et hospitalisé dans un état critique. Un engin explosif artisanal a également été retrouvé dans un véhicule lié au suspect et désamorcé. Le Premier ministre Antonio Albanese a dénoncé un acte de terrorisme antisémite et salué le courage des personnes intervenues. De nombreuses réactions internationales ont condamné l'attaque et exprimé leur solidarité avec l'Australie et la communauté juive. Hier, une voix s'est tue, une voix qui a fait vibrer toute la Belgique au rythme des plus grands événements sportifs mondiaux. Roger Laboureur s'est éteint à l'âge de 90 ans, voix mythique de la RTBF. Il laisse une trace derrière lui et une multitude de souvenirs et d'anecdotes qui ont marqué des générations d'auditeurs. Un héritage raconté par Emilio Carvajal qui s'est entretenu avec Pierre Robert, journaliste sportif à la RTBF, lui-même lancé dans le métier par Roger Laboureur.
Les Belges jouent mieux, un tir, oui, un but, goal.
Roger Laboureur a accompagné le quotidien de générations d'enfants et de parents belges dès que le sport s'invitait à la télévision. Aussi bien devant la caméra que derrière, comme sa voix, emblématique, sa personne, faisait l'unanimité.
C'est un homme extraordinaire, entier, qui était une véritable star, aussi bien quand la petite lumière rouge de la caméra s'allumait, que quand elle s'éteignait. Il était véritablement le trait d'union entre l'événement qu'il commentait et le téléspectateur qui était devant sa télévision. C'est ça, je crois, il parlait vrai.
Véritable mentor, Roger Laboureur a lancé toute une génération de journalistes, parmi eux Pierre Robert, qui lui doit sa première couverture olympique aux Jeux de Séoul.
Lorsque j'ai pu participer à mes premiers Jeux olympiques à Séoul en 88, c'était lui qui était le chef de mission. Et il m'appelle un lundi matin pour me dire « Pierre, tu es retenu pour partir à Séoul pour les Jeux Olympiques ». Et je lui réponds tout de suite « Roger, écoute, c'est sympa de faire des blagues comme ça le lundi matin, mais voilà, je te souhaite une bonne journée ». Et je raccroche immédiatement.
Et pourtant, ce n'était pas une blague. Pierre Robert a bien dû faire ses valises pour la Corée du Sud. Roger Laboureur, c'était aussi ça, un personnage rempli d'humour.
Il était quelqu'un de drôle aussi, mais qui était très pointu. Je me souviens aussi de ce match en Corée où tous les papiers s'étaient envolés et il inventait les noms des joueurs coréens. Ou alors il avait encore trouvé un truc sympa justement en parlant de Séoul en disant « Écoutez les gars, on va faire un petit concours et chaque fois que vous pourrez mettre le joueur Kim Kuyon dans le commentaire, il y aura un point. » Je lui ai dit « Moi avec ma boxe, je ne vais pas y arriver ».
Et on passe au sport. Et Léa, vous reprenez la main. Aujourd'hui, en cross-country, la Belgique est sacrée championne d'Europe par équipe chez les dames.
Ce dimanche au Portugal, les Belges ont signé une performance collective tout simplement exceptionnelle. Yana Van Lent et Lisa Rome sont longtemps mené la poursuite du groupe de tête, côte à côte pendant des kilomètres. Un peu après la mi-course, Chloé Herbier est venue les rejoindre pour renforcer encore le trio belge. Dans la dernière ligne droite, c'est Van Lent qui s'est montrée la plus forte. Elle termine quatrième comme l'an dernier à Antalya. Lisa Rome prend une très belle cinquième place, tandis que Chloé Herbier finit septième, à peine une semaine après avoir battu le record national de marathon à Valence. Au classement par nation, la Belgique, déjà médaillée de bronze lors des deux précédentes éditions, n'a cette fois laissé aucune chance à ses rivales et décroche l'or avec 16 points, devançant ainsi la Grande-Bretagne et la France. Plus tôt dans la journée, Willem Renders est devenu champion d'Europe de cross-country chez les juniors U20.
Alors hier, Remco Evenepoel a décroché le titre de sportif de l'année pour la 5e fois de sa carrière, Eléa.
Et oui, Valentin, le coureur de Skepdal confirme son statut après une saison marquée par de nombreux titres, dont ceux de champion du monde et d'Europe du course contre la montre. Avec ce 5e trophée, Evenepoel égale également Stefan Everts et se rapproche du record d'Eddy Merckx. Il a largement dominé le classement avec plus de 600 points devant l'athlète Isaac Kimeli et le basketteur AJ Mitchell. Malgré une préparation perturbée par un accident et un abandon sur le Tour de France, Remco Evenepoel a signé 8 victoires cette saison. L'année 2025 marque aussi la fin de son aventure avec Sunweb Quick-Step et le début d'un nouveau chapitre chez Red Bull Borough-Osborne.
Alors Remco n'est pas le seul à avoir été récompensé.
Emma Westmans est la sportive de l'année 2025. La capitaine des Belgium Cats a été mise à l'honneur lors du gala de sport à Skeel au terme d'une saison exceptionnelle. Championne d'Europe et élue joueuse de l'Eurobasket, elle a guidé les Cats vers un deuxième titre continental consécutif. À 32 ans, la native d'Ypres confirme son statut de figure majeure du basket européen. Au club, elle a également brillé avec Fenerbahçe, remportant le titre national et décrochant une troisième distinction consécutive de MVP de l'Euroleague. Déjà sacrée en 2020 et décorée en octobre dernier du Trophée national du mérite sportif, Emma Westmans s'impose plus que jamais comme le visage du basket féminin belge. Coéquipière d'Emma Westmans à plusieurs reprises, Sarah Dossou, capitaine du basket Namur Capital, a partagé le terrain avec elle et revient sur les qualités exceptionnelles qui font d'elle une joueuse hors du commun.
Emma, c'est une joueuse qui réalise des performances mais incroyables. Pour moi, c'est la meilleure joueuse du monde et c'est vrai que ce qu'elle fait mérite d'être connue. Il y a vraiment un énorme engouement autour des Cats et elle en est la première responsable. C'est vraiment une leader par l'exemple, mais dans tous les aspects du jeu. Je pense que c'est vraiment la joueuse qui m'a impressionnée le plus au niveau de l'intelligence basket, en fait. Ouais, vraiment, vraiment technique, la lecture de la défense, la lecture des aides, parce que voilà, c'est une joueuse qui est connue dans le monde entier, que plein de joueuses regardent, qui est scoutée, qui a des défenses qui s'adaptent complètement autour d'elle. Et pourtant, elle arrive toujours à performer parce que sa lecture et son intelligence de jeu est vraiment en dehors de la norme.
Alors, les Belgian Cats ont logiquement été sacrées équipe de l'année après leur deuxième titre européen consécutif. C'est la troisième fois qu'elles le reçoivent, cette distinction.
Tout à fait, Valentin. Et en football, c'est Vincent Kompany qui a été élu coach de l'année. Pour sa première saison à la tête du Bayern Munich, il a conduit le club au titre de champion d'Allemagne. La nageuse Rose van der Teyck a reçu le trophée d'espoir de l'année, récompensant une saison exceptionnelle, marquée par plusieurs médailles mondiales et européennes. Et enfin, Léa Bayekula a été désignée paralympienne de l'année. La sprinteuse belge confirme son statut après ses titres mondiaux et son doublé paralympique à Paris.
Merci Eléa, c'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous demain à 13h.